Petit disclaimer avant que l'épisode démarre. En fait, on vient de terminer l'enregistrement avec Benjamin au sujet des actualités du jeu vidéo, notamment la partie Tax Unity et un peu la suite. Et en fait, juste à quelques heures après qu'on ait fini d'enregistrer, Unity a fait une annonce qui change beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on a dit pendant cet épisode, notamment le fait qu'ils reviennent un peu sur les décisions, sur la nouvelle façon de facturer les jeux, surtout pour la partie personnelle. Donc, il y a toujours plus, ils ont complètement enlevé la version Unity Plus, comme on l'avait dit précédemment, mais la version personnelle n'a plus besoin de n'est plus affectée par ces changements de frais d'installation, de payer à l'installation. Donc c'est surtout visé par rapport aux indépendants et il n'y a plus besoin non plus gros changement d'afficher le logo Unity. Il n'y a plus aucune obligation, même sur le personnel tiers qui est totalement gratuit, jusqu'à 200 000 euros de revenus. Et au-delà de 200 000 euros, en fait, l'autre gros changement, c'est que les royalties ne s'appliqueront qu'à partir des prochaines versions d'Unity, c'est-à-dire à 2023 LTS, n'est plus rétroactivement applicable sur les anciennes versions d'Unity. Et si les personnes ne veulent pas avoir ce runtime fees, donc cette taxe, ne sont pas obligées d'upgrader la version de leur moteur sur la 2023 LTS. Et en plus, en termes de royalty fees, maintenant, ce n'est plus traqué du côté d'Unity, c'est aux développeurs de déclarer si le nombre d'installations ou s'ils veulent être payés 2,5% de royalties sur leur revenu. Donc voilà, il y a des gros changements, il y a des choses sur lesquelles on reviendra peut-être sur le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine, mais c'est juste pour faire un petit update par rapport à l'épisode que vous allez entendre ici. Certaines informations dont on va discuter avec Benjamin ne sont plus trop d'actualité. Voilà, et bonne écoute et bon épisode. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir en tant que chroniqueur un nouveau membre qui s'appelle Benjamin Console. Salut Benjamin.
Et bonjour à tous.
Alors Benjamin Console, t'as un nom de famille super cool. Donc ça, Console, t'étais prédestiné à être dans l'industrie du jeu vidéo, c'est ça?
Ah, complètement, ouais.
Et toi, t'es président et cofondateur de la société Lucid Factory.
Exactement, un studio indépendant basé sur Villeurbanne.
Sur Villeurbanne. Villeurbanne, pour ceux qui ne savent pas, c'est près de Lyon. Mais tout le monde connaît Villeurbanne, hein, c'est la plus grande.
Évidemment.
C'est Lasvele, c'est. Quoi d'autre à Villeurbanne? Voilà, je ne saurais pas te dire, mais.
Ouais, mais en tout cas, il y a plein de trucs.
Ouais, donc voilà.
Et il y a
Parce
plein
que.
d'autres chouettes studios d'ailleurs sur Villeurbanne.
Villeurbanne, évidemment, bah oui, c'est sûr qu'il y a un gros pool. Bah, en fait, oui, si on est dans l'industrie du jeu vidéo, on doit forcément connaître Villeurbanne, parce que même Infogrames à la base était à Villeurbanne. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu, et il y a plein de bons studios à Villeurbanne, même Ivory Tower, Ubisoft à Lyon, hein, c'est Ivory Tower qui est à Villeurbanne, plein d'autres studios, donc
Bien
voilà,
sûr.
c'est
Bien sûr.
plutôt cool, très dynamique au niveau
Et
du jeu vidéo, il a été bien installé.
exactement. Et puis Million Victories.
Million Victories, oui, Old Skull Game aussi, si je ne me trompe pas,
Ouais,
et,
ouais,
y a aussi, ouais, il y en a plein d'autres, Artifact. C'est vraiment le pôle jeu vidéo de la région Rhône-Alpes, Villeurbanne. Et bah écoute, ravi, merci d'être présent pour participer à ce podcast.
ouais. Ben, merci à toi de m'inviter.
Bah ouais, bah écoute, vraiment ravi. Et du coup, pour pas perdre les bonnes habitudes, Benjamin, il faut vraiment que je dise à nos auditeurs qu'il faut qu'ils aillent sur les plateformes de podcast pour mettre 5 étoiles. Ça, c'est hyper
Exactement.
important. Si vous ne l'avez pas fait, allez sur Apple Podcast, allez sur Spotify, allez sur Google Podcast, partout où vous pouvez écouter les podcasts, et même sur la chaîne YouTube Les coulisses du jeu. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter sur la chaîne YouTube. Je vois que la tendance commence même à s'inverser, où il y a plus de gens sur YouTube que sur les plateformes de podcast. Mais voilà, n'hésitez pas à aller dessus, liker sur YouTube ou suivre la chaîne Les coulisses du jeu et mettre surtout 5 étoiles pour faire remonter le classement du podcast. Ça permet à plus de gens de connaître le podcast et ça peut aider à des gens qui sont dans l'industrie ou qui veulent se lancer à en savoir un peu plus. Eh bien, merci. Et puis, bah, du coup, on attaque le premier sujet, peut-être, qui est des licenciements. Pour changer. Donc, c'est un peu la série, pour ceux qui connaissent un peu le podcast et qui écoutent les derniers épisodes, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un podcast, maintenant, à chaque fois, je commence par des licenciements. C'est un peu terrible. Je fais pas forcément exprès, mais à chaque fois, je regarde un peu les news, je tombe que sur ça, quoi. Donc, et là, cette fois-ci, on va parler de Embracer. Toi, tu connais assez un petit peu, tu as une vraie sœur, Benjamin?
Eh ben, en fait, je connais plutôt les studios qu'il a absorbés plutôt que cette énorme entité. Et quand tu m'as montré ce sujet-là, j'ai regardé un peu. Et effectivement, c'est un géant limite. Est-ce qu'on peut dire que c'est au même niveau que Bethesda?
Voire plus, moi je dirais même, tu vois.
Ouais,
Ils ont tellement de
ok.
studios. En fait, dans Embracer, il y a Gearbox, Crystal Dynamics, THQ Nordic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est vraiment une grosse entité. Ils ont même, tu vois, ils ont, en termes de filiales, il y a Deep Silver, Koch Media, Coffee Stain Studio, Saber Interactive, TK Games, Dark Horse Comics, Asmodee Edition. Tu vois, ils sont même au-delà même du jeu vidéo. Tu vois, ils ont vraiment plein de trucs.
Ah ouais,
C'est
Asmodée, c'est Embracer. Ah putain, ok.
Asmodee Edition. Alors, je sais pas si c'est. Oui, je pense que c'est. Oui, c'est pareil, quoi. Donc, ils ont dû racheter Asmodee il y a pas si longtemps. Et ouais, c'est vraiment gros. Mais même, je pense, plus gros qu'un Bethesda pour moi.
Ouais. Après, je sais que Bethesda, ils ont toute une branche dans le cinéma, si je dis pas de bêtises. Me corriger si c'est le cas.
Ouais, je
Mais
suis
bon,
pas
voilà. En
sûr.
tout cas,
Ouais.
c'est, je connaissais pas. Et effectivement, c'est un géant tentaculaire.
Ouais, et du coup, ben, ce géant, forcément, à force de racheter, ils se sont retrouvés avec beaucoup de gens, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de studios, et ils se sont dit, bon, c'est peut-être un peu trop gros, il y a peut-être des optimisations à faire, et ils ont commencé à faire des licenciements chez Crystal Dynamics, si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais, Crystal Dynamics qui fait le développement ben, des jeux, enfin, ils sont très connus pour la licence Tomb Raider. Je sais pas s'ils ont d'autres jeux. Je sais pas si qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux à part ça, Crystal Dynamics.
Mais je crois que là, en ce moment, ils sont en train de faire le rework de Tomb Raider 1, 2, 3, non?
Ouais, c'est ce qui était annoncé en plus il y a pas si longtemps, je crois, sur Nintendo Direct ou.
Ouais, c'est dans les tuyaux. Et a priori, 10 personnes de chez eux partent.
Ouais. Donc ouais, c'est pas rien.
Bah non, ça c'est
ouais.
sûr.
Voilà, et puis j'ai l'impression que ce que tu avais vu, toi, Benjamin, c'est qu'ils veulent aussi réduire le staff sur d'autres entités.
Ouais, alors j'avais regardé. Alors bon, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais il y a plusieurs infos qui se croisent là-dessus. Et ils voudraient aussi, petit à petit, se débarrasser de Gearbox Entertainment, donc ceux qui sont derrière Borderlands.
Ouais.
C'est quand même difficile d'imaginer que ceux qui sont derrière Borderlands puissent être à perte. Mais après, peut-être qu'ils ont beaucoup d'autres jeux et qu'il n'y a que la franchise Borderlands qui vraiment fonctionne. Peut-être
Ouais.
même que les derniers n'ont pas fonctionné, je sais pas. Je sais que Borderlands 3 et la suite a peut-être moins fonctionné que le 2, qui a été vraiment le plus éclatant et le plus rayonnant des Borderlands. Mais bon.
Ouais. Et c'est vrai qu'ils se rendront vraiment de réduire un peu, d'optimiser, comme ils disent, les différents studios, le personnel qu'ils ont. Ouais. Bon, apparemment, ça va qui peut se poursuivre du coup sur les prochains mois ce genre de pratique. Donc on espère que c'est surtout tous les gens qui vont se retrouver licenciés ils pourront ra rapidement trouver un autre poste et qui seront pas voilà trop en difficulté. J'espère que ça va aller
Et l'une des raisons, a priori, derrière toute cette restructuration, c'est ce que tu mettais, c'est une dissolution d'un accord avec Savvy Games, qui est estimé à 2 milliards de dollars. Donc on peut s'imaginer qu'aussi gros qu'il puisse être, quand il y a un accord à hauteur de 2 milliards qui disparaît, alors sous quelles conditions, on ne peut pas savoir, ça demande forcément de lâcher du lest, quoi.
Ouais, c'est qu'il faut revoir un peu les plans financiers pour que l'entité tienne la route. Et pour poursuivre un peu sur cette note positive, c'est ironique, bien sûr. Ubisoft aussi ferme des studios. Donc, il ferme un premier studio à Londres, FGOL, donc FGOL, qui est Future Game of London, qui est un studio plus spécialisé dans les jeux mobiles, qui s'avait acquis en 2013 de mémoire, et 2012, 2013, je ne me rappelle plus exactement.
2013.
2013, ouais. Et qui sont connus notamment pour le jeu Hungry Shark, qui était un gros hit sur mobile dans ces années-là. Et depuis, ils ont sorti pas mal d'itérations d'Hungry Shark. Il y en a plein. Hein. Si vous allez voir sur l'App Store, Google Play Store, vous allez forcément dû tomber sur du Hungry Shark. Et là, ils ferment le studio de Londres. Il y a, je crois, une cinquantaine de personnes qui sont quand même impactées par cette fermeture. Et ils veulent rapatrier, du coup, la licence au niveau de Barcelone. Donc voilà, c'est assez surprenant pour moi parce que c'était vraiment, enfin, je t'en parlais un peu avant l'émission, Benjamin, c'est que c'est un studio, moi je faisais partie du studio de d'Ubi, le studio qui était racheté, qui était à Barcelone en fait par Ubisoft, et Future Game of London, c'était un peu le modèle à suivre, c'était le studio qui s'avait racheté juste avant nous, et ils marchaient plutôt bien, ils performaient plutôt bien, et c'était vraiment génial, et puis on a eu des bons échanges aussi avec la team, et je suis un peu triste pour la team de Future Game of London. Ils faisaient du bon boulot, c'était genre super, donc voilà, là Ubisoft aussi essayer de restructurer un peu sa division mobile. Mine de rien, Ubisoft Mobile, ils ont toujours un peu de mal à trouver encore le gros hit qui fait que ça tourne. Ils sortent des jeux, il y a des trucs qui sont pas mal, c'est intéressant, mais je ne sais pas à quel point ils arrivent à avoir le même succès qu'ils rencontrent qu'avec avec la division AAA de chez eux, quoi. Je sais pas si toi tu connais, tu joues un peu des jeux mobiles, tu connaissais un peu la licence.
Alors, j'ai joué pas mal à des jeux mobiles, mais un peu d'ailleurs ce que tu disais sur l'ancien épisode, sur le dernier épisode avec Alex, quand vous avez fait un parallèle sur Unity et puis les jeux mobiles, c'est surtout de l'idle game que je fais sur mobile. Et non, Hungry Shark, j'y ai pas joué. Et puis, j'ai essayé plusieurs fois faire des free-to-play, notamment les énormes free-to-play où on a des pubs de partout, que ce soit chez les youtubeurs, chez les streamers, que ce soit. Et en fait, c'est tellement un système à la gacha et, qui t'oblige à dépenser des centaines d'euros si tu veux rester compétitif, voire des milliers d'euros, et devenir toi-même une baleine, comme on dit. Du coup, juste, c'est pas possible, quoi. Moi, voilà, je
Voilà,
peux
c'est pas
pas.
trop
Je
ta
suis pas la
classe.
cible. Non, je suis pas la cible.
Et Hungry Shark, ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'était vraiment un bon jeu. Enfin, tu vois, c'était, ouais, il y a un peu de pub, un peu d'in-app, des trucs comme ça, mais finalement, c'était, bon, en tout cas, les premières versions que j'avais essayées, et c'était pas si intrusif que ça, et c'était assez fun quand même, quoi. Tu vois, tu démarres avec un petit requin, tu manges les autres et tout ça, et tu grossis. Il y avait vraiment un super truc. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont pas assez renouvelés. Ce qui est difficile, c'est que les gens aussi ont besoin d'un peu que tu renouvelles un peu l'IP, que tu fasses des choses nouvelles et tout, et quand t'as un studio qui est un peu spécialisé là-dedans, que tu refais les mêmes jeux un peu, c'est difficile des fois de sortir de ça, quoi.
Et puis je trouve aujourd'hui qu'il y a une mentalité de la part des joueurs sur mobile qui sont soyez généreux avec nous quand même. On sait qu'il y a un moment ou un autre, vous allez nous demander de cracher notre argent. Et quelque part, l'accord, il est tacite et on l'accepte. C'est pour ça aussi qu'on joue sur mobile. Mais ne nous prenez pas que pour des vaches à lait et soyez un peu généreux quand même. Et autre chose qu'en nous donnant des diamants parce qu'ils ont fait une mise à jour et qu'on a le droit à 100 diamants. Voilà, quelque chose d'un peu plus logique qu'un dédommagement parce que j'ai pas pu jouer pendant 45 minutes. Alors qu'en fait, j'étais en train de travailler, donc quoi qu'il arrive, je n'aurais pas pu jouer. Donc, il y a ça. Et est-ce que toi, tu as connu l'âge d'or de Congregate?
Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai démarré ma carrière de rôle de producteur à cette époque-là. Où on a fait justement des gros jeux à succès sur le web, free to play. C'était vraiment. Il y en avait partout, il y avait plein de jeux. C'était un peu le Far West aussi, un peu comme le mobile maintenant. Mais il y avait des trucs intéressants qui en sortaient quand même.
Bah, moi, je trouve que Congregate, c'était les prémices de tous les styles de jeux que l'on trouve sur mobile maintenant, quoi. C'est vraiment ouais, enfin, voilà. Après, moi, je suis assez triste de voir Congregate maintenant n'accepte plus aucun jeu, que le Flash, bon, bah, c'est fini, on va pas en parler, et qu'il y a plus cette possibilité de trouver plein de petits jeux indés, des fois dégueulasses, mais qui te proposent juste une feature et tu vas à fond dedans, et
C'est
puis
vrai.
voilà, ça t'a pris 45 minutes de ton temps et t'es content, quoi.
Non, mais t'as raison. Il y avait deux trois plateformes de jeux comme ça qui marchaient plutôt bien, et donc Congregate et maintenant
Armor
je me
Games
rappelle.
aussi.
Ouais, il y avait. Comment ça s'appelait, Lucha? Ah, c'est une boîte néerlandaise. J'ai perdu le nom, mais oui, il y avait deux, trois trucs, deux, trois portails de jeux comme ça qui étaient bien. Nous, on avait sorti ouais, justement à l'époque sur Kongregate, le jeu La Galaxy Life, qui était
D'accord.
un. C'était un. Bah, c'était l'ancêtre de Clash of Clans, et ça marchait plutôt bien, ouais.
Ok.
Mais bon, ça
Trop
n'existe
cool.
plus maintenant, mais c'était un très bon jeu, c'était une bonne expérience. Ouais. Mais oui, c'est un peu triste, ouais, toutes ces fermetures, ces licenciements. Voilà, comme je disais avant, j'espère que tout le monde retrouvera un boulot assez vite. Il y a quand même, malgré ces licenciements, ces fermetures, il reste quand même des studios qui recrutent. Il y a quand même des boîtes qui se créent aussi, des structures qui se créent. Peut-être qu'on
Bien
n'en parle
sûr.
pas beaucoup ici parce que voilà, je sais pas forcément des choses que je vois passer. Je sais pas trop si les studios. Je préfère pas parler de toutes les créations de studios parce que je sais jamais où ils en sont et des fois c'est des trucs encore confidentiels et ça va. Mais il y a des choses, il y a du boulot. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais comment tu vois
Bah,
l'écosystème, mais.
un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que et là, ça laisse à la libre interprétation. S'il y a des auditeurs qui veulent réagir à ça, ce serait avec plaisir, mais. De plus en plus, on voit quand même l'émergence du marché indé qui prend de plus en plus de place à tous les niveaux. Et forcément, eux, ils croquent une partie du gâteau des recettes liées aux jeux qui sortent. Et
Ouais.
ça, forcément, enfin, pour moi en tout cas, forcément, c'est un manque à gagner de la part des studios AAA, voire AAA. Et donc ça aussi, ça doit participer à la restructuration. Alors c'est sûr qu'ils rachètent souvent les petits studios indés, histoire de récupérer leurs IP et pouvoir en profiter, les mettre dans leur catalogue, leur mettre là-dedans. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même une émergence. Typiquement, tous ceux qui se font licencier là. Je suis sûr qu'on pourrait faire des stats pour savoir combien va en profiter avec, j'imagine, leur chèque de départ, vont en profiter pour monter une structure parce qu'ils ont une idée de jeu en tête depuis très longtemps. Ils vont monter une structure avec, en investissant peut-être 50 000, 100 000 euros, dans leur entreprise et derrière créer un nouveau studio indépendant.
Ouais, et puis recréer de l'emploi et tout, et de
Bien
faire
sûr.
remettre en place un cercle vertueux dans l'industrie. Mais
Carrément.
t'as raison, c'est vrai que la part du marché des jeux un peu blockbuster, triple A, des gros constructeurs, doit se partager, maintenant on doit partager le marché. Même là, je regardais un peu, tu vois, les chiffres récemment, c'est 160 milliards le marché du jeu vidéo en 2020, ils annonçaient.
Ouais,
Donc
bah,
depuis, ça a dû progresser.
bah
Et
oui.
donc, il y a quand même encore de la place pour des jeux, pour des studios. Et donc c'est vrai il y a des choses qui font partie un peu, je veux dire, d'un fonctionnement normal, un peu dans l'économie, on va dire, à l'échelle internationale où bah, tu as des fermetures, tu as des licenciements, mais je pense qu'il y a quand même de la place pour de la création de nouveaux studios, que ce soit pas forcément sur les formes de grosses boîtes, mais plus comme tu disais, en indépendant, avec des petites équipes et
Bien
créer des
sûr.
choses avec vraiment une identité peut-être plus forte que ce qu'on pourrait avoir sur un jeu triple A, quoi.
Et puis l'autre chose aussi que je te disais, c'est que quand même, les énormes sorties, donc si on prend Cyberpunk, si on prend Assassin's Creed, si on prend, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre encore? Là dernièrement, alors en plus petit quand même, mais il y a Payday 3 qui est sorti hier,
Ouais.
il y a Starfield qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc ça c'est des jeux où on te crée une hype énorme. Et derrière, en fait, il y a pas mal d'échos qui disent que c'est pas forcément à la hauteur. Alors Starfield, j'ai l'impression qu'il petit à petit arrive à tirer une épingle de son jeu. Cyberpunk, c'était une catastrophe, hein, si on s'en rappelle.
Ouais.
Le portage PS4, on se demandait si c'était revenu à l'époque de Tomb Raider 1. On en parlait tout à l'heure. Même si maintenant qu'il a subi énormément de patchs, ça doit être un plaisir à jouer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi les grosses licences, elles sortent buggés, et je pense qu'il y a de plus en plus une perte d'intérêt et de confiance envers ces gros studios et qu'ils reportent leur attente sur les triple I, hein, donc l'évolution indé. Et chez nous en France, si on prend Shiro Games par exemple, avec War Tales et Dune, on a quand même des gros jeux indés qui sortent. Et puis bah, comment ne pas parler d'indé sans parler de Baldur's Gate 3, avec l'Ariane Studio qui fait un carton plein en s'occupant de tout, de A à Z.
Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a un petit shift dans l'industrie qui s'est opéré, et c'est vrai que bah, tu vois, moi, enfin, j'arrive plus trop à être hypé par les triple A, quoi. Je passe un peu
Ouais.
à côté. Je regarde pas trop. Et puis même quand je vois des actus là-dessus, ça ne m'attire pas forcément. Donc c'est vrai que c'est
Carrément.
peut-être que je suis plus trop la cible de ce genre de grosses sorties. Et voilà, mais je sais pas comment se passe. Ouais, comment l'industrie dans sa globalité se passe, mais on voit vraiment qu'il y a un petit changement qui s'est opéré, et c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses qui vont bouger en termes d'emploi, de job, de studio, de taille de studio, et c'est vrai qu'il y a des gros studios, des grosses structures. Est-ce que ça a encore sa place, voilà, dans là où tu as besoin peut-être des fois de créer des choses plus petites et de revenir à des choses plus intéressantes en termes de gameplay? Et
Ouais,
pas de
carrément.
refaire une énième itération de la même IP pendant des années et des années, quoi.
Et puis je serais intéressé de savoir l'habitude des consommateurs à l'échelle mondiale ou par continent, savoir qui a encore envie de dépenser 80 balles dans un jeu. Ouais, et est-ce qu'ils préfèrent pas plutôt dépenser 3 fois 30 € pour avoir 3 jeux, tu vois? Je sais
Ouais.
pas, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresserait à savoir.
Je pense que tout le monde prend des Game Pass maintenant.
Ah ouais, tu penses?
Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup
Je suis tellement
d'exemples.
pas là-dedans non plus.
Ouais. Non, pour le coup, moi, ouais, tu vois, le Game Pass, je le prends alors que je pense que c'est pas adapté pour moi. Mais ouais. Faut avoir une grosse consommation quand même en termes de jeux pour que ce soit rentable, je pense, le Game Pass. Mais ça permet de tester plein de petits jeux que tu n'aurais pas forcément acheté. Tu vois, ça,
Ouais.
c'est l'avantage en fait, de ce genre de système d'abonnement. Et puis même pour les devs, c'est pas mal parce que tu peux vraiment faire des bons deals. Avec Microsoft ou d'autres personnes qui ont ce genre de type d'abonnement, où bah, tu peux avoir des pré-ventes, enfin un chiffre d'affaires un peu à l'avance fixé par le platform holder, quoi, par Microsoft, en disant bah, voilà, vous mettez le jeu sur Game Pass, vous avez tant de millions pour vous, quoi.
Ouais,
Donc,
bah c'est sûr que c'est intéressant.
même pour les devs, c'est quand même plutôt confortable de dire, bon, moi, je dépends
Oui,
pas des
oui.
nombres de ventes, etc. Donc,
Ouais,
mais oui,
complètement.
mais t'as raison. Ok. Écoute, on va passer au sujet suivant. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dessus, Benjamin, sur cette partie fermeture. Donc, on espère surtout
Non,
qu'il n'y
bah
aura pas d'autres dans la suite des épisodes, mais ouais.
Ouais, alors bon, mon avis, c'est que tu en auras d'autres, hein, parce qu'on n'a pas parlé du contexte économique actuel qui ne favorise pas non plus la création et le maintien d'entreprises. Donc, mais voilà.
C'est
Mais
vrai que
sinon, non,
ça,
j'ai
ouais.
rien à rajouter.
Tout le monde court un peu après le cash, ouais, effectivement, c'est un peu
Ouais,
ça.
c'est vrai.
La liquidité se fait un peu plus rare, donc bon, peut-être que les choses vont se calmer un peu si le contexte change, donc on espère. Mais ouais, on essaie de couvrir un maximum d'infos sur les différentes actualités, aussi d'ouverture de studio, s'il y a des choses qui sont intéressantes à venir. Peut-être que tu vois, je pensais même mettre en avant s'il y a des boîtes qui recrutent en masse, des choses comme ça, donc il faudrait peut-être que je fasse
Ça
une
peut être
section.
intéressant parce que le fait de pas trop parler des studios qui naissent, c'est parce qu'en fait souvent ils vont mettre 2 ans avant de sortir leur jeu et donc là il y a un mec qui va créer son studio maintenant, mais on en parlera en 2025 en fait.
Bah ouais, c'est vrai.
Et d'ici là, on ne sait pas si en 2025 il sera toujours là. Donc c'est vrai qu'on parle plus facilement des gens bien en place qui commencent à chavirer que des émergences qui ne discutent pas de leur propre projet parce qu'ils veulent aussi gérer leur com.
C'est vrai. Non, mais tu as raison. Il faudrait peut-être que. J'essaie de faire un petit condensé des jobs à prendre en ce moment.
Pourquoi pas?
Ce serait intéressant. Ok, écoute, on va passer au sujet suivant qui est en fait un peu la suite de l'épisode de la semaine dernière sur la taxe Unity. Donc, c'est les changements. La semaine dernière, on avait couvert justement avec Alex le fait que Unity changeait un peu sa politique tarifaire, enfin que vous voulez changer, et que c'est toujours un peu le cas hein, de vouloir changer leur politique tarifaire, où les gens, enfin les développeurs surtout, allaient devoir payer par rapport au nombre d'installations faites de leur jeu et non plus une licence basée sur un abonnement ou sur les revenus générés. C'est à partir du moment où vous avez 200 000 installations et vous voulez générer 200 000 dollars de revenus bruts, il fallait que vous payiez chaque installation de votre jeu, et c'est Unity qui décidait combien vous allez devoir leur payer parce que c'était seul à détenir cette vérité. Donc, bien sûr, ça a fait une grosse tollée. On a un peu résumé ça la semaine dernière avec Alex. Et depuis, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, changé, etc. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi? Je sais pas si tu, Benjamin, tu as vu des trucs intéressants.
Déjà, ce que vous avez dit avec Alex était plus que vrai. Je trouve que le plus hallucinant, et c'est là où pointait Alex, c'est la perte de confiance et surtout les projecteurs sont sur Unity. Donc les gens, ils vont regarder encore de plus près Unity et le délit d'initié. Ça, bon, je ne sais pas si un jour ça va être traduit en tant que tel, mais c'est quand même pas beau. Donc le fait que le PDG de Unity ait vendu ses actions il y a 3 ans de ça, je crois, où ça cotait plutôt pas mal, fait une annonce fracassante avec une cote en bourse. Je crois que le jour où il a fait l'annonce, ça a perdu 30% direct. Et du coup, pour après racheter ce qu'il a acheté, mais à moindre prix. Et donc, ça, c'est bien sûr, c'est interdit. Est sortie aussi une grille de l'argent que gagnent les cinq personnes qui gèrent Unity, enfin en tout cas les cinq personnes les mieux payées, entre leur salaire annuel, leur stock option, leurs autres primes à droite à gauche. Et à eux cinq, ça représentait 60 millions sur 3 ans, je crois. Donc, ou même un peu plus. Enfin bref, en tout cas, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que ça fait grincer des dents. Et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, quoi? Mais du coup, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Godot a l'air de vouloir rappeler au monde entier que l'open source, comme pour Blender, a ses lettres de noblesse et aussi pour les moteurs de jeu. Et donc, il faut voir du côté de Godot peut-être maintenant.
C'est vrai que y a des choses qui ont bougé à ce sujet hein, sur les autres moteurs qui profitent un peu, qui surfent. Tout le monde remercie d'ailleurs Unity hein, de façon un peu ironique. Il dit on n'a jamais connu un meilleur agent de presse, enfin
Ah bah bien sûr.
un agent pour faire la pub pour notre moteur, pour notre solution que Unity. Et c'est vrai que Godot sort un peu du lot parce que c'est un peu la seule solution qui se rapproche beaucoup de Unity tout en étant open source parce qu'il y a d'autres moteurs open source hein, comme Monogame, Axe, etc. qui sont là depuis un moment mais qui n'offrent pas forcément tout l'écosystème de l'IDE que propose Godot par exemple avec voilà des choses fenêtrées tout inclus avec un éditeur de code à l'intérieur du moteur un gestionnaire d'assets etc. Il y a beaucoup de choses dans Godot qui sont inclus un peu comme Unity le faisait il fait toujours Unity le faisait mais non il existe toujours Unity je vais pas l'enterrer tout de
Oui,
suite
bah oui.
mais ouais ce qui est vrai c'est que Si tu l'as bien rappelé, hein, c'est la confiance quoi, qui est vraiment cassée, je pense, avec une grosse partie de la communauté des devs Unity. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que depuis qu'on a fait le podcast la dernière fois, il y a eu une annonce de fait sur Twitter de la part d'un utilisant. Oui, on a été un peu maladroit sur la façon dont on a annoncé les choses. On a créé pas mal de confusion dans la communauté. Donc, on s'excuse. On va retravailler notre copie, on va revenir. Mais en aucun cas, ils ont dit non, on va retirer le truc, on se retire. Et ça fait presque une semaine, quoi. Donc, ils ont posté ça le 18 septembre et depuis, pas de news. Aucune nouvelle qui transparaît du côté d'Unity. Ils prennent le temps peut-être de cette fois-ci de valider leur message pour être sûr qu'ils ne mettent pas n'importe quoi. Mais je pense pas qu'ils changent quoi que ce soit sur les runtime fees. Je pense que le système va rester. Alors là, c'est vraiment mon feeling, hein, mais le truc qui va se passer, je pense qu'ils vont vous demander aux développeurs de déclarer les installs ou de trouver une autre solution, mais qu'ils vont vouloir garder ce genre de système de pricing à l'install, quoi. Alors, je sais pas si, à moins d'un miracle, mais je vois pas comment ils pourraient revenir en arrière. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais.
Alors s'ils font ça, il y a quand même un truc qui va être compliqué. C'est ce que tu rappelais donc avec Alex, qui était les mastodontes du free-to-play qui dépensent plusieurs millions par mois d'argent dans la pub parce qu'ils sont avec Unity, parce qu'ils font leur jeu. Donc tu avais cité Vodou, je sais plus, tu en avais cité deux autres, je me rappelle plus.
Roma Games,
Et
c'est ouais, il y en a plein, ouais.
s'ils laissent le pricing tel qu'il est. Les premiers impactés de ça, c'est le free-to-play. Donc, si en plus c'est aussi eux qui donnent le plus de pognon d'un point de vue pub, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Unity veut se débarrasser du free-to-play pour qu'ils aillent voir ailleurs et avoir un moteur de jeu qui est spécialisé jeu premium, grosse structure, grosse prod, enfin je sais pas.
C'est un peu plus calculé que ça de la part d'Unity. En gros, ils voudraient que les gens qui font du free-to-play fassent de la pub que avec Unity. Et en gros, ils ont approché des devs. Alors, j'ai vu passer des infos là-dessus et je crois qu'ils avaient mis dans leur, même sur leur site, hein, dans leur FAQ, je crois qu'à un moment donné, c'était précisé quelque part, où si tu fais des jeux free-to-play et que tu utilises leur système de pub, eh ben, tu peux payer moins cher de runtime fees. Et que tu peux enlever cette une partie peut être déduite de ce que tu as payé en runtime fees. Ceux qui vont être impactés, c'est ceux qui font du free to play plus à la, tu vois, à la Genshin Impact ou en gros c'est du, tu vois, c'est du free to play cross platform déjà où ils ont très peu de pubs, mais ils ont beaucoup d'achats intégrés. Et là, Unity voit quasiment rien passer par chez eux. Ils utilisent leur moteur, ils payent une licence, tu vois, même 10 devs à 1600 euros. Bon, bah voilà, je suis même pas sûr qu'ils aient ça. C'est ceux qui font sur Genshin Impact. Et du coup, vu qu'ils se rémunèrent quasiment pas avec la pub, que c'est que des in-app et que ça drive beaucoup d'argent, et ben, du coup, il n'y a rien qui passe par Unity. Donc, autant les jeux qui sont à base de pub, ils pourraient se servir des solutions d'Unity pour réduire leurs coûts, mais ils n'ont pas forcément envie parce que c'est pas. Tu vois, c'est pas forcément là où c'est plus rentable pour eux d'acquérir des joueurs, quoi. Si c'est un coût prohibitif, si tout le monde fait ça, les coûts d'acquisition vont exploser. Si tout le monde passe par Unity pour dire, ben voilà, il faut qu'on fasse ça parce que ça nous coûtera moins cher, mais finalement, ça coûtera plus cher parce que tout le monde fait la pub sur le même réseau. Donc, c'est vu que c'est un système d'offres et de demandes, ça va énormément augmenter les coûts d'acquisition des nouveaux joueurs. Clairement, ils visaient aussi, du coup, Unity en faisant ce genre de système à Plovin, qui est leur plus gros concurrent sur la partie pub. Et pour info, Plovin a sorti un petit outil qu'ils appellent Project Unifree, qui permet de migrer ses projets Unity vers d'autres moteurs de jeu complètement gratuits, open source. Donc voilà, un petit tacle bien placé.
Ouais, un bon coup de coude à la gorge, ouais, quand même. Et pareil, day one de l'annonce, Godot avait repris cette fameuse tableau moche de Unity avec le pricing, avait repris tel quel et avait enlevé tous les prix et avait mis free, ou NA de partout pour dire.
Ouais, j'ai pas vu ça, d'accord. Ouais, mais du coup, ouais, y a quand même des petits changements qui sont arrivés. Donc, pas du côté d'Unity, hélas, Unity, ils sont un peu en mode silence radio jusqu'à présent. Mais par contre, les autres bougent. Plovin avec son outil pour migrer les assets de Unity. Parce qu'en fait, le gros problème d'Unity, c'est quand tu utilises, bah, t'es un peu verrouillé, quoi. T'as beaucoup de choses un peu propriétaires, le code n'est pas open source. Donc, si tu veux aller sur un autre moteur, c'est très compliqué. Il faut des fois réécrire ton projet sur Godot ou sur Unreal, et les devs qui ont passé 4 ans déjà à bosser sur leur projet, ils n'ont pas forcément envie de faire ça. Alors que si tu es même au début, je veux dire, même si tu as déjà travaillé un an sur ton projet, tu n'as pas forcément envie de migrer tout ton code base, ton projet sur un autre moteur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Notre jeu qu'on est en train de développer est actuellement sur Unity. On ira jusqu'au bout du projet. Après, on verra si on change de moteur de jeu ou pas. Parce que Unity reste quand même un moteur de jeu qui fonctionne très bien, qui a plein de fonctionnalités, et si on enlève l'aspect politique et économique de l'entreprise, le logiciel en lui-même, il est quand même top. Enfin, il apporte plein de choses. La version 2022 corrige pas mal de problèmes et apporte des nouveautés ou des fonctionnalités qu'on attendait depuis un petit moment. Mais par contre, ce que tu dis, on peut aussi le reprocher à Unreal. C'est-à-dire que Unreal Engine, tu fais ton projet dessus, tu ne peux pas le migrer sur Unity.
Non, c'est clair. Et par contre, à l'inverse, sur Unreal Engine, t'as les sources. Ce n'est pas open source, mais tu as accès au code source du moteur.
D'accord.
Et donc, tu as pas mal même de gros studios, tu vois, Capcom et tout ça, ils ont customisé un peu leur. Le code moteur, quoi. Donc tu as accès au code source et tu peux faire tes motifs, tu peux améliorer, tu peux vraiment faire ce que tu veux, alors qu'Unity, bah, c'est un peu une boîte noire et tu peux pas toucher à grand chose. Donc c'est un peu la grosse différence entre les deux moteurs. Et surtout aussi, bah, tu vois, le fait de migrer un projet
Moi, je suis d'accord. Unity aussi, enfin, il n'y a pas d'équivalent en termes de c'est pour ça que tout le monde galère, tout le monde est un peu scandalisé. C'est que, en fait, même si tu veux, enfin, tu as l'impression vraiment d'être dos au mur et on te dit, bah non, bah, c'est bon, maintenant, tu te fais un peu braquer, quoi, par Unity parce que tu n'as pas d'autre
Ah ouais,
choix.
bien sûr.
Et si tu fais ça, bah, tu perds beaucoup de, bah, même les écoles et tout. Tu vois, j'ai vu aussi un gros problème, c'est sur les écoles, les étudiants, les professeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont misé sur Unity. Qui ont toute leur formation, toutes les, tu vois, toutes les écoles de jeux vidéo. Il y a beaucoup de studios qui privilégient Unity même plus que Unreal sur leurs projets étudiants parce que ben, tu vois, c'est plus facile d'approche et ça couvre aussi, tu vois, si tu veux programmer un peu le C-Sharp, des fois c'est un peu plus simple
Oui, bien sûr.
que le C++, enfin, tu vois,
Oui, bien sûr, ouais, complètement.
et ouais.
Par contre, ce que je me demande par rapport à ça, par rapport aux étudiants, hein, parce que bah, je suis intervenant dans une école de jeux vidéo aussi, et finalement, les étudiants, ce qu'on leur demande, c'est de comprendre ce qu'ils font et de comprendre les différents blocs dans un moteur de jeu et comment ils communiquent entre eux. Alors, bien sûr que Unreal ne va pas fonctionner de la même manière qu'Unity, mais si je fais un parallèle entre Blender et Maya, parce que Maya, par exemple, c'est assez utilisé pour les étudiants en art, si après ils doivent passer sur Blender, ils vont devoir réapprendre les raccourcis, ils vont devoir peut-être réapprendre comment Blender nomme une fonctionnalité peut-être d'une manière différente que pour Maya. Mais par contre, la passation, elle va être rapide. Donc, je ne sais pas si pour les étudiants, c'est un réel problème, je ne me rends pas compte.
Bah, moi je vois, tu vois, en tant que pour recruter des gens, si t'as pas fait des projets sur la techno que je cherche, ça m'intéressera même pas ça va même pas m'intéresser de discuter avec la personne parce que
Oui,
je me
mais
dis, elle connaît
étudiant ou pas
pas.
étudiant, ça?
Oui, étudiants ou pas étudiants, mais
Ouais, tu
encore plus
vois,
pour les étudiants
c'est.
qui misent beaucoup sur Unity, si demain l'industrie change, je suis
Ah,
pas
ouais.
sûr que l'industrie soit complètement prête, malgré des différents messages qui sont postés et la grogne qui monte dans les studios à gauche à droite. Je suis pas encore sûr que tout le monde va d'un coup passer sur des, tu vois, Default, Godot ou Unreal.
Non, mais
Je
c'est
pense
sûr que non.
que les gens vont quand même rester sur Unity, mais si demain ça arrive, bah, toute la vague d'étudiants là qui sont en train d'être formés à Unity, tu vois, c'est comme si tu apprenais le Flash en 2023, quoi. Tu vois, c'est bien, mais tu vas pas trouver de boulot. J'adore Flash, mais c'est pas. Moi, j'étais formé à Flash, tu vois. Moi, j'ai fait des formations de Flash, je suis sorti. Bah, c'était cool, hein, j'avais pu faire hein, des stages et tout en tant que développeur Flash. Mais après, ben, qu'est-ce que tu en fais de ces compétences une fois que la techno est morte?
J'avoue que si quelqu'un poste, enfin veut candidater chez moi et que je vois sur son CV maîtrise ActionScript 3, bah je trouverais ça mignon,
Voilà,
nostalgique, mais il a intérêt à avoir d'autres bagages, quoi.
c'est
Ça, on
ça,
est bien d'accord.
ouais. Du coup, il
Après,
faut
pour
que
Unity, bon là, ils sont dans une tourmente incroyable. Le PDG qu'on rappelle est l'ancien PDG de EA Games, non, aussi d'Electronic
c'est
Arts.
ça, ouais.
Du coup, est dans une tourmente aussi politique d'agression sexuelle ou je ne sais quoi là, ou d'agression physique. Non, je crois que c'est sexuel en plus. Alors bien sûr, il dément tout, mais là voilà, ça va péter dans un sens comme dans l'autre et on verra quelle tronche aura Unity au bout d'un
Ouais,
moment.
dans quelques temps. Donc, en tout cas, on essaiera de couvrir encore l'actu sur les prochains épisodes. On va essayer de vous tenir au courant. Après, c'est comme tu disais, il y a des gens qui en profitent un peu de la situation à qui bah, les choses se passent plutôt bien, donc, notamment on disait
Bah
Godot.
ouais, c'est normal.
Et du coup, il y a Relogic. Alors, je sais pas si je le prononce bien, Relogic, peut-être, si c'est vu que c'est bien. En anglais, ça serait plutôt Relogic, qui sont les développeurs de Terraria. Qui ont fait des annonces pour. Ils n'utilisent pas du tout Godot hein, pour leur jeu, mais ils ont dit vu ce qui se passe sur Unity, nous on veut soutenir la concurrence, donc on va donner une énorme somme d'argent aux différents moteurs open source, donc comme Godot, FNE et Monogame. Donc ils soutiennent, voilà, ils soutiennent le développement de tous ces moteurs de jeu, et évidemment Monogame, ils n'avaient pas forcément encore de système de donation en place, si ma mémoire est bonne. Enfin, c'était assez compliqué avant pour soutenir le moteur financièrement, Monogame, et ils ont ouvert rapidement cette semaine une page de donation pour faciliter les gens qui veulent soutenir le développement du moteur. Monogame, c'est quand même plutôt un gros truc. Il y a pas mal de jeux qui ont été faits avec Monogame. Je crois qu'il y avait, je crois que si je ne me trompe pas, Towerfall. Quoi d'autre? Je sais que je crois que c'est Dotemu qui l'utilise pas mal là, pour les jeux aussi. Alors, je ne me rappelle plus exactement les différents. Ah. Il y a un jeu qui est connu. Bon, bref, vous allez voir sur Monogame, il y a un showcase entier
Ah
de
bah
tous
il y
les.
a j'y suis là-dessus, ils ont fait
Ouais.
y a c'est eux qui ont fait Street of Rage 4.
Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ils utilisent Monogame, ouais. Axiom Verge, et il y a vraiment de gros jeux, en fait. On sous-estime un peu la puissance de ce moteur.
OK, Bastion.
Bastion,
Bastion qui est
exactement, voilà,
le
c'est ça.
premier jeu de ceux qui ont fait Hades.
Exactement, Stardew Valley. Voilà. Et en gros, pour la petite histoire, Monogame, c'est un peu le fork de XNA, qui était un ancien outil, un framework de développement qui a été fourni par Microsoft, qui était super bien, hyper friendly. C'est un plugin installé. On peut coder des jeux en C#, hein, Monogame, c'est juste C#, cross-platform, etc. À l'époque, XNA, c'était pas cross-platform, c'était que Windows. Et ils ont fait le fork quand Microsoft a décidé d'un peu arrêter les XNA, donc ils ont continué à développer ce système en mode open source avec sous le Monogame a un peu continué ça. Donc vous pouvez faire des jeux cross-platform en C#. Voilà, c'est pas du tout Unity, hein, il n'y a pas tout le, il y a pas tout l'IDE, écosystème, etc. Mais ça peut quand même faire des jeux assez sympas. Bon, il y a Celeste aussi, hein, qui a été fait avec
Ouais, c'est ce que j'allais
Monogame.
dire, Céleste
Ouais.
aussi, incroyable.
Et moi, mes premiers cours, là, je me rappelle, mes premiers jeux et tout, j'avais fait avec XNA à l'époque, justement, mes cours de programmation, et c'était plutôt sympa. Il y a encore une techno qui était morte, hein, voilà. Je parlais de Flash, après XNA. Je peux aussi citer plein de choses comme ça. Est-ce que je vais rajouter Unity bientôt dans mes catalogues de
Espérons pas
techno
quand
mortes?
même. Espérons qu'il y ait une fin heureuse à tout ça quand même.
Ouais, j'espère aussi. Et donc voilà, et du coup, tout ça, voilà, tous ces moteurs un peu open source en profitent énormément. Il y a aussi un petit livre là, que j'ai vu sur la FJV qui est arrivé récemment, qui permet d'apprendre Godot, plus de 300 pages. Donc allez faire un petit tour si vous sur Amazon, si vous voulez acheter. Ça s'appelle Développer des jeux à Godot 4 et le langage C#, la petite particularité de Anthony Cardinal. Donc c'est sur aux éditions D-Booker. Et voilà, vous pouvez voir, je sais plus, je crois que ça coûte une trentaine d'euros en physique. Il y a une version Kindle aussi, hein, des maths sur Amazon si vous voulez le choper moins cher. Et ça permet aussi, si vous êtes plus livre écrit que vidéo YouTube ou tout ça, ça peut être aussi intéressant. Ils sont français, hein, l'avantage aussi de cet outil.
Très bien.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? Non, on va suivre un peu, hein, je pense.
Oui.
Juste pour info, tu as cité les différents studios qui avaient coupé un peu les pubs, qui se révoltent un peu contre Unity, comme voilà, Home Games, Voodoo, etc. À l'époque, enfin à l'époque, la semaine dernière, on en parlait, ils étaient une poignée. Là, ils sont plus de 1000 maintenant à soutenir le mouvement. Il y a la liste entière des studios qui sont présents sur unitedgamedevs.com. Vous pouvez aller voir, il y a plus de 1000 studios qui ont signé la pétition et qui sont contre.
Et puis il y a de grandes chances que ça va grossir parce que Alex disait que ceux qui étaient le plus impactés, ça représentait, je crois, 23 000 entreprises, quelque chose comme ça, entre 20 et 25 000.
Ouais.
Bon, si le chiffre est cohérent, on va peut-être passer à 5 000 rapidement aussi, hein.
Ouais, tu m'étonnes. Bon, tu peux te rajouter là-dedans si tu veux. Ça
Ouais.
fera grossir les chiffres.
Ouais, exactement.
Non, mais c'est ouais, y a vraiment beaucoup de studios qui ont signé et ça continue de grossir petit à petit. Et voilà. Donc j'espère que les choses vont bouger de façon positive. On
Yes.
passe à la news suivante où tu voulais rajouter des choses, toi, Benjamin,
Non,
là-dessus.
c'est bon,
Bon,
c'est bon.
ça va. Alors, un sujet, à mon avis, que tu maîtrises un peu plus que moi, c'est Valve et ses plannings, on va dire, la stratégie de sortie des jeux sur Steam.
Ouais.
Et donc, Valve est sympa quand même, hein, il te donne des infos, il te donne comment bien préparer tes sorties, bien préparer ton, bon, je sais pas, ton plan marketing. Par rapport aux différents plans qu'eux ils ont. Alors, peut-être que tu peux un peu en parler plus, toi, Benjamin, si
Ouais,
tu.
carrément, bien sûr, avec plaisir. Clairement, Valve, avec Steam, depuis, alors, je ne saurais pas, peut-être 3 ans, 4 ans, boostent énormément sa plateforme en la séquençant en plusieurs événements donc dans leur calendrier. On a des événements qui vont être assez majeurs. Donc on va avoir les soldes. Donc les plus gros, ça va être les soldes Steam. Donc on a les soldes d'été, on a les soldes
Ouais,
d'hiver.
moi je connaissais
Et
que ça, tu vois.
voilà. Donc ça, c'est vraiment les plus gros. C'est là où les soldes sont vraiment fracassantes sur certains jeux. Ça concerne tout le monde. Et ça, c'est un point important. Ça concerne tout le monde. Et après, toi, en tant que studio et en ayant ton jeu sur Steam, tu peux dire, je veux y participer ou je ne veux pas y participer. Tu as toujours le choix de savoir si tu veux y participer ou pas.
Ouais, est-ce qu'ils te consultent ou c'est à toi de te manifester auprès de Valve en disant
Par exemple, donc avec notre jeu Inuloa's Fate, donc déjà, il faut être présent sur la plateforme. Donc ça, on pourra en parler peut-être une prochaine fois. Ouais. Ça coûte 100 $. Il y a plein de paperasses à remplir, mais une fois que tu es dedans, tu es dedans. Une fois que tu es dedans, tu as un tableau de bord qui te permet de créer ta page Steam, de mettre ton build, d'avoir des retours à droite à gauche, de mettre tes streams, de mettre… Bon, bref, tu peux tout faire. C'est très facile et très clé en main. Donc, on voit quand même qu'ils ont grave boosté l'accessibilité et le côté user-friendly. Et après, concernant ces événements, quand ils ne te connaissent pas, ils te mettent sur aucun événement, malgré que tu aies mis tes tags, que tu as dit que tu étais un jeu stratégique, que tu étais un FPS, machin, tout ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour le nôtre. Parce que c'est notre premier jeu chez eux. Je pense que si c'est mon quatrième jeu chez eux, ça ne se passera peut-être pas pareil. Mmh. Et donc après, par contre, tu vas sur l'événement, tu vas sur le lien de l'événement et tu dis, voilà, moi, je pense que mon jeu a toutes les conditions requises pour faire partie de votre événement, et tu rajoutes un texte où tu expliques pourquoi. Et après, eux, ils reçoivent le mail, ils vont le traiter et ils vont t'inviter ou pas dans l'événement.
D'accord.
Voilà, donc il faut distinguer trois styles d'événements. Il y a les sold Steam, qui là concernent pour moi tout le monde, sauf si je décide que mon jeu ne sera pas partie des sold Steam. Après, tu as le Steam NeoFest, qui lui est 3 fois par an et qui concerne uniquement les jeux qui ne sont pas encore sortis.
Ouais.
Et voilà. Et donc celui-là, et sachant
il ne faut pas avoir release ton jeu, même en early access, ça compte pas, non?
Early access, si tu l'as mis en early access, c'est mort, tu ne peux pas faire de Steam NeoFest. Ah, la seule chose que tu as le droit, c'est de mettre une démo.
Ok, si tu as une démo et pas de early access, tu peux quand même prétendre à pas faire partie du NeoFest. Okay.
Par contre, si tu participes au NeoFest, par exemple, là, il y en a un qui va être le 9 octobre. Ouais. Et si tu fais celui-là, tu ne peux plus en faire d'autres.
Ah oui, c'est une fois pour tout ou fois par an, non, c'est
une fois par projet. Tu fais
une fois par projet. Ah oui, ok.
Parce que l'idée derrière le Steam NeoFest, c'est que tu vas mettre ton jeu sur le NeoFest, puis tu as anticipé la sortie assez proche du Steam NeoFest.
D'accord.
Par exemple, là, moi, pour moi, on a repris un peu certains points et on s'est désinscrit du Steam NeoFest d'octobre pour s'inscrire sur celui de février. Et en fait, comme j'avais mis que mon jeu allait sortir fin octobre, ils m'ont dit c'est pas possible parce que votre jeu va sortir avant le Steam NeoFest. Donc, toi, il faut vraiment que tout soit cohérent. Okay. Donc, il y a ça.
Du coup, tu as changé la date de sortie pour que ça marche.
Exactement. Okay. Et la chose derrière qu'ils font de plus en plus, c'est des festivals thématique. Donc on a le célèbre Halloween toujours pendant la période d'Halloween, tous les jeux d'horreur, tous les jeux qui ont des composantes qui sont liées à Halloween peuvent participer. Là ils m'ont proposé récemment le festival de construction de deck. Donc du coup en mars 2024, et ça je trouve que c'est vachement bien du côté de Steam parce que ça permet d'avoir des événements sur des thématiques particulières pour mettre en avant des jeux dans des thématiques particulières, des fois de niche. En août ou en juillet, il y avait un festival sur les jeux avec une narration forte. Je sais plus comment ils l'avaient nommé ce festival, mais du coup ça je trouve que c'est vachement bien.
Oui, ça correspond mieux aussi même à la cible des gens qui seraient intéressés potentiellement par les jeux, quoi. Au lieu d'avoir, parce que moi franchement, c'est pas tous les genres de jeux auxquels je joue. Clairement, c'est un truc. Enfin, tu vois, moi je suis pas trop branché les jeux narratifs, donc je vais pas aller voir les jeux qui sont présentés. Mais par contre, plus dans les jeux de stratégie ou des choses comme ça, je vais peut-être plus m'intéresser à voir quel type de jeu de stratégie va arriver prochainement, quoi. D'accord.
Carrément. Et du coup, le 4 septembre, il y avait le Steam Strategy Fest.
Ah bah tu l'as raté.
auquel on a participé. Et en fait, là, il faut bien avoir en tête que Steam, son objectif premier, quand même, c'est que ça se vende, parce qu'il va prendre 30%. Sur chacune des transactions qui se passent sur sa plateforme. Donc, quand tu es un jeu qui n'est pas encore sorti, qui ne peut pas être acheté, tu auras de facto bien moins de visibilité que ceux qui se vendent. C'est normal.
Ouais.
Et après, Steam est très permissif, je trouve, sur quel jeu doit apparaître dans quel festival. Et surtout dans quelle catégorie, parce que Strategy Fest, t'avais le temps réel, t'avais le tour par tour, t'avais les Tower Defense, t'avais un peu tout ce genre là, et t'avais des jeux qui étaient dupliqués dans plein de catégories parce que c'était des grosses prods et parce que on sait que ça va générer de l'argent, surtout pendant les festivals. Donc voilà, de toute façon, ça reste une entreprise qui doit gagner de l'argent. Il faut garder en tête que pour se démarquer, il faut avoir une stratégie et quelque chose de bien pensé, parce que quoi qu'il arrive, tu vas être en concurrence avec des mastodontes qui ont de l'avance sur toi et vont essayer un peu de t'éclipser. Je parle quand on est un jeune studio. Hein.
D'accord, oui.
Parce que okay. Si c'est toi le mastodonte, bon ben.
Oui, oui, bien sûr. C'est sûr que c'est pas la même chose. Ouais. Okay.
Donc voilà. Donc effectivement, Valve a sorti son planning des soldes 2024 et c'est, je pense, quelque chose qui marche très bien chez eux.
Ouais. Ouais. Et donc là, les dates, pour rappel, tu sais, juste, on mettra le lien en note de l'émission hein, pour les gens qui veulent voir l'agenda, parce que c'est vraiment public sur le site de Steam, de Valve, à partager cet agenda. Donc il y a des choses là pour, tu parlais toi, octobre, c'est ça, 2024.
Mars 2024,
octobre, ça fait un peu long. Mais ouais, c'est, il y a quand même quelques dates clés, donc allez voir s'il y a des dates qui peuvent vous intéresser, surtout bah, sur toutes les différentes thématiques aussi, s'il y a des choses qui peuvent s'adapter à vos jeux et peut-être participer à ces événements pour
et
être
tu vois comment ils s'amusent. Il y a quand même le Pirate versus Ninja Fest,
ouais.
Et le Dino versus Robot Fest. Enfin, ouais. Ils ont vraiment envie de. Enfin, je trouve qu'il y a une envie pour eux d'avoir une image.
Un peu fun, un peu. Ouais.
Très pop culture, je trouve.
Ouais. Et non, mais c'est génial. Du coup, ça permet vraiment de. Voilà. Et tu vois, moi, je voyais le festival Remote Play Together qui a lieu du 12 au 19 février. Ça m'intéresse beaucoup aussi, tu vois, de jouer ouais, à plusieurs et tout. Ça peut être vraiment, vraiment cool, quoi. Donc, bon, c'est super intéressant. Retenez bien les dates. Allez voir le calendrier. Prévoyez peut-être voilà, des plans de com, des sorties aussi, du coup, adaptées à vos sorties. Par rapport à ce que disait Benjamin, hein, de peut-être pas sortir de Early Access tout de suite. Si vous voulez faire partie de ces nouveaux fest.
Ouais, c'est important de bien se renseigner. Ouais. Ouais.
Voilà.
Un exemple tout bête, si vous sortez votre jeu genre 2 jours avant ou 1 jour avant, je ne sais pas assez précis, mais bref, quelques jours avant la sortie d'un fest dans lequel vous participez, ça va nuire à votre visibilité post-festival. Donc ça, il y a pas mal de choses aussi à voir quand même, parce qu'il y a des fonctionnements un peu obscurs de Steam qu'il faut bien avoir en tête. Et heureusement, on a des gens compétents autour de nous qui nous aident. Mais...
D'accord.
C'est compliqué.
C'est ça qui est un peu... Ouais, il faut vraiment trouver la bonne stratégie, bien planifier un peu, anticiper un petit peu au truc. Faites pas les trucs à l'arrache.
Non, clairement pas.
Ça va être compliqué. Vous avez qu'une cartouche, donc vous pouvez pas... vous n'aurez pas plusieurs chances pour être visible. Mais c'est bon, c'est un peu ça qui est critique quand on est dev indé sur les jeux, c'est d'avoir un maximum de visibilité et que les gens découvrent votre jeu. Donc profitez justement de ces événements. En plus, ça coûte rien. À part sortir son jeu sur Steam, quoi, qui a quand même un petit coût, un peu de frais, mais ça, c'est dans les centaines d'euros, c'est ça, si je ne me trompe pas.
Ça coûte 100$, et si on fait 1000$ de chiffre d'affaires, ils nous les rendent.
Donc voilà. C'est...
Ça veut dire que ça coûte 100$, et si on leur rapporte 300$, ils nous rendent 100$.
Donc oui, c'est quasiment, ouais, ça coûte quasiment rien, quoi. Donc c'est par jeu ou c'est pour par compte développeur, je crois. Non, c'est par jeu, c'est ça que tu soumets.
C'est par jeu. Non, ouais, c'est par jeu. C'est le jeu que tu soumets qui te coûte 100$.
D'accord. Voilà. Donc prévoyez ça. Regardez un peu l'article et puis vous en saurez un peu plus. Écoute, je pense qu'on a un peu couvert tous les news là, de cette semaine, Benjamin.
Ouais, carrément.
Je te propose qu'on passe à la section horoscope. Alors. Qu'est-ce que tu fais un peu en dehors de... Je sais que voilà, t'es très occupé sur ton temps avec toutes tes différentes activités et surtout bah, ton studio, hein, Lucid Factory, qui doit te prendre énormément de temps.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que tu arrives quand même à avoir du temps, toi, en dehors un peu de faire d'autres choses?
Oui, oui, bah, bien sûr. Bah, je joue parce que je pense que c'est très important de jouer pour savoir quelle tendance va y avoir et puis quels vont être les prochains jeux de l'entreprise. Donc je passe du temps à jouer et 95% du temps c'est des jeux indés. Et là c'est vrai que si je devais parler de deux jeux en ce moment, les gars du boulot m'entendent, ils vont rigoler parce que j'arrête pas de leur en parler, c'est Chain Echoes qui est un jeu indé qui est sorti l'année dernière, fait par Mathias Linda, un Allemand qui, du coup, je ne sais pas combien de temps il a travaillé dessus, mais du coup, il a quasiment fait 80% du jeu à lui tout seul. Après, le reste, c'est des freelances ou des sociétés qui font de la musique. C'est un RPG old school, ambiance Final Fantasy VI, enfin ambiance Super NES, quoi. Donc Final Fantasy VI, Chrono Trigger, pas Secret of Mana, parce que le système, c'est vraiment des combats au tour par tour à la Final Fantasy VI.
D'accord.
Voilà, donc ça, je le conseille, vraiment incroyable. Du coup, ça m'a fait découvrir Sea of Stars, qui lui est un vraiment Secret of Mana-like, donc je l'ai mis dans ma wishlist et il va bientôt passer sous mes mains. Et l'autre jeu que je joue en ce moment, c'est Against the Storm, qui est un jeu indé sorti aussi, qui a fait un gros carton, qui est vraiment très très bien. Et lui mélange deux choses, le survival sim et le jeu de stratégie de construction de ville, en fait, avec une ambiance roguelite dans un univers très sympa.
D'accord.
Donc, je recommande
Excellent.
au moins juste d'aller vous jeter un coup d'œil. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la page d'Inuloa's Fate. Ça, c'est le jeu qu'on est en train de faire sur Steam.
Et
Il
bah,
y aura
toi,
une
ouais.
démo dans pas longtemps. Donc, ça sera l'occasion pour vous de tester le jeu.
Bah, on mettra le lien hein, du
Ouais,
jeu en note
carrément.
de l'émission pour que les gens puissent aller découvrir la page Steam ou je sais pas ou je sais
Ouais,
pas si
la
c'est
page
un
Steam,
site
ouais.
internet. Du jeu ou de la boîte. Évidemment, oui, je mettrai ça. De mon côté, j'avoue que j'ai pas trop, j'ai pas trop grand chose à raconter. Alors, c'est un peu triste, mais moi, contrairement à toi, j'arrive pas du tout à trouver le temps de jouer. J'essaie de me remettre, tu vois, à Baldur's Gate 1 par tu vois, un peu mon
Ah ouais.
nostalgie et tout. Mais j'en ai déjà parlé, je crois, au dernier podcast. Donc voilà, je vais un peu me répéter, mais même ça, j'arrive pas à trop avancer parce que voilà, il faut. En fait, ce qui est un peu problématique, c'est qu'il faut que lance Steam, etc., que ça se charge. Etc. Enfin, tu vois, c'est tout ce process un peu long. Enfin, j'ai un peu ancienne école où. C'est pour ça que les jeux mobiles, j'adore. C'est que tu lances l'app, tu joues, quoi. T'as pas besoin de trop attendre et tout. Donc j'étais un peu hook par. Bah, moi aussi, j'adore les idle games comme toi, les jeux sur mobile. Et Legend of Slime, c'est un peu le jeu squat.
Ouais.
En ce moment, donc je passe beaucoup de temps dessus et là j'ai un peu craqué avec les promos là, qui se terminaient hier. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai pris une Steam Deck. Voilà.
Ok.
Donc je sais pas si c'est
J'attendrai
peut-être
ton retour parce que ça m'a fait de l'œil aussi, mais je l'ai pas pris.
bah, j'ai vraiment hésité. J'ai attendu la dernière heure et tout pour dire bon, je te prends pas. C'était vraiment la promo qui se terminait. J'ai dit allez, on craque et puis je l'ai pris. Bon, j'ai pris vraiment le premier. La version la plus light, la plus petite et tout, parce que voilà, je joue pas des gros jeux triple A, je suis vraiment très comme toi, un peu plus indé, plus petit jeu, même voilà, un peu rétro gaming et tout, donc ça me va très bien. Peut-être que j'upgraderai plus tard un SSD. Je regardais des tutos, apparemment c'est pas très compliqué à changer le SSD dedans, donc voilà, peut-être que je m'amuserai à ça, mais bon, bref, voilà, j'ai craqué là-dessus. Peut-être que ça va me donner un peu plus. D'envie ou de facilité à un peu jouer à mes jeux sur du catalogue Steam, mais voilà, bon, je parierai pas trop là-dessus, mais on va essayer. Au moins, si je finis quelques petits jeux, ça serait cool. Mais voilà, en tout cas, c'est le petit achat un peu compulsif de mon côté.
Je comprends.
Et puis en fait, j'arrive pas à me sortir de mes rétro-podcasting. Je suis rentré dans une spirale infernale où j'arrête pas de réécouter les vieux podcasts. Tu vois, donc
Ah
c'est tellement génial en fait de réécouter tous les sujets, bah, de tout ce qui sont abordés depuis. Là, je suis en 2015 en ce moment. Tu vois, je suis en été 2015 où ouais, il y a plein de trucs intéressants. Bah, du coup, côté tu vois, il y a des sorties de jeux, des trucs qui bougent aussi dans l'industrie, de voir un peu l'évolution de l'industrie depuis tout ce temps. Donc, il y a des trucs un peu, je passe un peu vite quand même, parce que voilà, c'est pas forcément intéressant. Il y a le 3 2015, il y avait l'annonce, je crois, comment on appelle ça, je perds tout là, le nom. Il y a des petites indés là qui étaient venues présenter, bah, il y avait le showcase sur la PlayStation ou. Tu sais, le jeu qui était sorti, Open World, d'espace, tu vois, avec des planètes générées procéduralement, qui a fait un gros carton. No
Oui,
Man's Sky, ouais,
No
c'était.
Man's Sky,
Ouais, voilà.
ouais.
Et voilà, bon, ça remonte, hein, mais permet de voir un peu l'évolution et ouais, il faut que j'arrive à accélérer un peu plus parce que du coup je rate un peu tous les derniers épisodes de podcast d'actualité. Donc je sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nous cette semaine. Vous pouvez retrouver les couches du jeu un peu partout hein, sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, comme je disais. Puis on a aussi un Twitter en x.com, coulisses du jeu, coulisses au pluriel, avec aussi la chaîne YouTube, youtube.com/coulisses du jeu. On a un petit Discord aussi qui est ouvert, il n'y a pas grand monde, mais vous pouvez le rejoindre si vous avez l'occasion. Je mettrai aussi le lien en note de l'émission. Et toi, du coup, Benjamin, tu me disais bah, du coup que ton jeu, Inu Lost Fate est disponible
non, sur Steam.
On a anticipé, c'est ça? C'est,
alors, non, il va y avoir une démo qui va sortir dans pas longtemps et l'accès pour avoir un maximum de retours. On va l'héberger, je pense, sur itch.io.
Ok.
Et après, ça se passera sur notre Discord. Mais en attendant, le mieux, c'est encore d'aller voir notre page Steam et ouais, puis de soit nous retrouver après derrière sur le Discord, soit juste de suivre l'évolution sur la page.
Ok, ouais.
Et mettre en wishlist, bien sûr.
Ouais, de rajouter au wishlist votre jeu et de rejoindre votre Discord, c'est le mieux, c'est ça pour.
Ouais, bah ouais.
Ok.
Là, on l'a configuré et puis dès qu'on sortira la démo, il sera bien actif.
D'accord, ça marche, ouais. Bah écoute, je mettrai tous ces liens, comme ça les gens pourront découvrir un peu plus ce que tu fais aussi. Et puis ouais, peut-être on aura l'occasion de se reparler peut-être sur un autre épisode de podcast à l'avenir.
Avec grand plaisir.
Merci à toi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis c'est tout pour nous. Bye.
Au revoir.